Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Alors aujourd'hui, Mathilde, tu nous proposes une revue de presse ou de la littérature ?
Eh bien, un peu des deux. Aujourd'hui, Marie a trois grandes nouvelles pour vous. La première, c'est que nous allons effectivement être déconfinés lundi 11 mai. La seconde est que le nombre de tribunes sur le monde d'après a officiellement dépassé celui de malades du Covid. Et la troisième, c'est que les mots des journaux aujourd'hui convoquent aussi un peu de littérature.
Alors tu voudrais d'abord nous parler de contes.
Oui, l'Obs n'oublie pas les spécimens rares qui regretteront le confinement et les lectures qu'ils auront pu faire dans le calme de leur pénate. Et a préparé un numéro spécial Histoire de Covid. Il y a d'abord celle de la duchesse de Rohan, Antoinette de son prénom, confinée dans son château de 2500 m² dans le Morbihan, sans ses 15 employés, et qui découvre les joies du ménage. Bref, la duchesse passe la serpillière, et ça lui fait tout drôle. Il y a aussi l'histoire du championnat de foot biélorusse, qui se déroule comme si de rien n'était, au cœur de la seule dictature du continent, et qui, faute de concurrence, attire spectateurs et investissements. Bref, qui fait un carton. Le magazine raconte aussi les aventures d'un Américain venu remplacer le gardien d'une cité minière abandonnée en Californie et qui s'est retrouvé bloqué là-bas, seul, par une tempête de neige.
Un Shining contemporain.
Exactement. Et je vous passe les histoires d'un marionnettiste et sa troupe venu répéter Moby Dick de Melville dans une île norvégienne et confiné sur ce bout de terre coupé du monde. Mais justement, avec le déconfinement, on va enfin trouver contact avec le monde.
Avec un monde nouveau et meilleur.
Oula, non, ne vous réjouissez pas tout de suite. Camus écrivait « Le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais ». Le gouvernement a déjà un plan de reconfinement et Michel Houellebecq nous prévient « Le monde d'après ressemblera, je cite, à celui d'avant en un peu pire ». Dans d'autres journaux, on s'intéresse encore au passé et l'on fait le procès de la gestion de la crise. Dans Le Monde, on passe en mode thriller pour résoudre une énigme persistante. Pourquoi une réaction aussi tardive du gouvernement et pourquoi 70% des médicaments vendus en Europe viennent d'Inde ou de Chine? Dans Le Figaro, on dénonce des blocages de tous les ordres, psychologiques, politiques, bureaucratiques ou juridiques. Les verrous français sont autant les doctrines que les protocoles et les traditions, et ils ralentissent considérablement la gestion de crise. Bref, au pays de Voltaire, Kafka est roi.
Mais on pourrait aussi voir les choses autrement que par l'absurde.
Oui, en pensant par exemple à toutes les innovations qui sont nées en cette période. Aux Pays-Bas, les restaurants créent des serres pour deux personnes dans lesquelles la nourriture n'entrera que par un système de planches coulissantes. En Auvergne, une entreprise invente une lampe hybride permettant à la fois d'éclairer et de désinfecter une surface grâce au LED ultraviolet. D'autres inventent des crochets pour ouvrir les pieds. Attention tout de même, un astrophysicien australien s'est retrouvé à l'hôpital avec des aimants dans le nez après avoir cherché à inventer un collier émettant un signal quand une personne rapprochait ses mains de son nez ou sa bouche.
Bon, et plus sérieusement ?
Eh bien, des chercheurs français ont eu l'idée de placer des tests PCR dans les eaux usées pour détecter le virus avant que les symptômes ne se déclarent. Étant donné que les selles des personnes contaminées et même des gens asymptomatiques contiennent des traces d'ARN, le génome du virus, on peut estimer la situation virologique de la ville en mesurant la quantité d'ARN dans les eaux usées, ce qui est moins coûteux que le dépistage individuel et permet de détecter les cas asymptomatiques.
En effet, c'est prometteur. Mais à plus grande échelle, comment envisage-t-on le monde d'après ?
L'écrivain Paolo Giordano s'exprime à ce sujet dans Le Monde. Il dit « J'ai peur de découvrir que l'échafaudage de la civilisation que je connais est un château de cartes. J'ai peur de la table rase, mais aussi de son contraire, que la peur passe en vain sans laisser de traces derrière elle. Et dans le monde diplomatique, justement, on se bat pour que la peur ne passe pas en vain et que la crise soit l'occasion de défendre une nouvelle ère, celle de la planification écologique. Eh bien, elle reposerait sur 5 piliers, le contrôle public de l'investissement et du crédit, avec arrêt du financement des industries polluantes, la garantie de l'emploi, la relocalisation, la démocratie et la fin du lien entre planification et autoritarisme, et finalement, la justice environnementale. Les auteurs rappellent qu'en France, les 10% les plus riches émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres.
Un programme très ambitieux, donc.
Oui, ambitieux, et la presse du jour donne quelques pistes pour s'engager sur cette voie, comme les propositions de Nicolas Hulot, une TVA incitative sur les biens écologiquement vertueux, ou une troisième chambre où faire dialoguer experts et citoyens. Et pour celles et ceux qui voudraient aussi entendre parler des bonnes idées déjà appliquées, sachez que Courvide cherche des volontaires pour enseigner aux collégiens et que pour occuper vos soirées, Arte programme une sélection de films qui ont marqué le Festival de Cannes depuis les années 1980. La pandémie, elle, a ressemblé à un film d'horreur où les cadavres pourrissaient dans les rues en Équateur et où les parcs de New York servaient de morgue. Ou à un film fantastique dans lequel apparaissent soudainement des fantômes, des invisibles, les soignants, caissiers ou ouvriers. Alors espérons que le déconfinement ressemblera moins à Contagion qu'à un film de Wes Anderson, forcément un peu étrange, mais toujours coloré, philosophique et réfléchi.
Merci Mathilde, merci Marie pour cette revue de presse. Il est 20h29 et avec quelques minutes de retard, il est l'heure du billet éco que nous a concocté Nathan sur le chômage partiel.